La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
Vous nous emmenez ce matin sur les rives du Nil bleu.
Oui, en Éthiopie pour être plus précis, mais rien de bucolique, désolé, dans ce voyage de l'ascension que je vous propose, car sur ces rives donc du Nil bleu, avant que le grand fleuve africain n'aille irriguer le Soudan et l'Égypte, on parle surtout des millions de mètres cubes de béton et d'acier qui constituent le futur grand barrage éthiopien, de la Renaissance. Je vous en avais déjà parlé ici même il y a quelques mois, ce barrage grâce auquel l'Éthiopie espère faire un bond en termes de développement économique, d'électrification et d'irrigation de ses cultures. Ce barrage donc, dit de la Renaissance, il est en passe d'être achevé, construit à 75%. D'après le quotidien émirati The National, les autorités d'Addis Abeba espèrent même commencer à le remplir dès ce mois de juillet. Mais tout ça se fait, et c'est bien le problème, sans qu'aucun accord n'ait pu être trouvé avec les pays en aval du Nil, le Soudan et l'Égypte. Les trois pays ont participé au mois de février à des négociations sous l'égide des États-Unis. Mais l'Éthiopie a refusé en mars de signer l'accord qui avait été trouvé pour tenter de s'entendre sur une gestion concertée du débit du Nil. Dans les colonnes de l'Addis Standard, le gouvernement éthiopien réaffirme qu'il n'est en rien obligé de s'entendre avec le Caire pour construire et remplir son barrage et que de toute façon, les 18 milliards de mètres cubes d'eau qu'il faudra retenir pour la première phase de remplissage n'auront aucune conséquence sur le débit du fleuve en aval. Vous vous en doutez, ce n'est pas du tout l'analyse qui est faite par les Égyptiens. Le journal Kerot Al-Aram fustige de son côté l'égoïsme et l'entêtement des Éthiopiens portés par le rêve de devenir le premier exportateur africain d'électricité sans penser à ceux qui sont en dessous. Dans son édito d'hier, Al-Aram appelle l'ONU à se mêler de cette querelle de voisinage qui, je cite, menace le bien-être des peuples égyptiens et soudanais.
Et à mesure qu'approche la date prévue pour démarrer le remplissage du barrage, les tensions s'enveniment dangereusement.
Oui, car pour remplir son réservoir, l'Éthiopie va forcément devoir fermer le robinet du Nil, au moins en partie. Si elle met vraiment sa menace à exécution au mois de juillet, selon le site d'info The New Arab, les choses pourraient vraiment mal tourner. D'ores et déjà, le président égyptien Al-Sisi aurait fait placer son armée en état d'alerte maximale après des informations selon lesquelles une batterie de missiles anti-aériens aurait été déployée à proximité du barrage par les Éthiopiens pour prévenir une éventuelle attaque aérienne égyptienne du chantier. Tout ça ressemble bien à des tentatives d'intimidation pour peser sur les dernières négociations avant l'échéance de juillet. Mais ce qui est sûr, selon The National, c'est que tant l'Éthiopie que l'Égypte ont fait de cette question du Nil un enjeu très fort de nationalisme, volonté de développement, d'indépendance et de nouveau départ, on l'a dit, pour les Éthiopiens, et défense du Nil comme élément fondateur de l'identité nationale pour les Égyptiens. Sauf que l'Éthiopie, portée par les espoirs de changement qu'incarne son jeune Premier ministre Abiy Ahmed, qui est tout de même prix Nobel de la paix 2019, il ne faut pas l'oublier, semble vouloir contester ce prétendu monopole historique et culturel de l'Égypte sur le Nil. Alors le site d'info et d'opinion éthiopien Borkena News n'hésite pas à dénoncer les larmes de crocodile et les mensonges que déverse la partie égyptienne pour peser dans ce conflit régional. Cette même Égypte accusée d'avoir pendant des décennies accaparé les bienfaits du fleuve en condamnant les habitants des pays en amont à la pauvreté et à la famine. On sent bien qu'il s'agit pour Addis Abeba d'une question d'affirmation nationale autant que de réduction de la pauvreté de son peuple. À charge pour l'Égypte d'accepter que ce n'est plus forcément à elle seule de fixer les règles dans le grand bassin du Nil.
Et puis à présent, Camille, vous nous annoncez la réouverture du plus grand théâtre du monde.
Oui, mais alors ne vous emballez pas, hein. Amis frustrés de la culture, il s'agit du plus grand théâtre politique du monde, à en croire The Washington Post, puisqu'à Pékin, ce vendredi, va s'ouvrir la session annuelle du Congrès National du Peuple. 5000 membres de la nomenclature communiste chinoise réunis au moment où tout, ou presque, nous dit-on, se joue dans ce grand cérémonial, dans l'apparat et dans la mise en scène du pouvoir. Pour Anne Fifil du Washington Post, donc, la grande affaire cette année de ce congrès du peuple sera forcément de se réjouir, de se féliciter de la manière dont la Chine a réussi à vaincre le coronavirus. L'organisation même du congrès, qui avait été repoussée de 2 mois à cause de l'épidémie, est aujourd'hui vue à elle seule comme une preuve que le moment est venu de décréter le retour à la normale. Il s'agira aussi de montrer que Xi Jinping garde le contrôle complet sur les instances du parti, que malgré les critiques vite étouffées sur les dissimulations et les mensonges des premiers temps, la réaction des autorités chinoises a été la bonne. Les dirigeants chinois ne devraient pas se priver de dire que si les bonnes décisions n'avaient pas été prises, la Chine aujourd'hui serait beaucoup plus durement frappée par la pandémie, comme les États-Unis, bien sûr. Le contre-exemple est tout trouvé et puis ça permettra de remettre une pièce dans la machine des tensions américano-chinoises. Pour Laura He de CNN Business, le PC chinois va surtout devoir faire des annonces ce week-end sur l'aspect économique de la crise. Comment recréer des millions d'emplois détruits par le ralentissement économique mondial et faire face aussi à la montée du ressentiment contre la Chine alimentée par les Américains. Tout cela pourrait se ressentir sur les exportations chinoises. Ce congrès 2020 n'a pas besoin de grands slogans politiques, mais bien de substance. C'est ce que plaide enfin le politologue Min-Chin Pei dans l'analyse qu'il livre à la Nikkei Asian Review. Ce ne sont pas les habituelles démonstrations d'autosatisfaction qui suffiront cette année, dit-il, à rassurer le peuple chinois plongé dans le doute par la récession qui s'annonce après 4 décennies de croissance ininterrompue en Chine. Il faut rassurer aussi sur la peur du coronavirus qui, retour à la normale ou pas, reste très vive dans la population. De ce point de vue, le Parti communiste chinois joue gros, estime Min-Chin Pei. Si un seul cas de contamination devait être détecté parmi les 5000 participants du congrès, ce serait une humiliation cuisante pour le gouvernement chinois.